Gloire à Dieu, nous sommes là au rendez-vous avec le Saint-Esprit pour qu'il nous enseigne. Nous nous souvenons de la parole du Seigneur dans Jean 14, 26. Il a dit, quand le Saint-Esprit viendra, l'autre consolateur, il vous enseignera. Il vous enseignera, il vous rappellera les choses que je vous avais dites. Voilà. Le travail du Saint-Esprit, c'est de nous enseigner, c'est de nous parler à travers les paroles qui sont dans les Écritures. Lire ne suffit pas. Il faut lire et recevoir l'enseignement du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui rend clair les choses dans le cœur de chacun. Parce que les paroles peuvent atteindre le cerveau sans atteindre le cœur. Seul le Saint-Esprit, comme c'est écrit dans Hébreux 4, 16, a la capacité d'atteindre le cœur, l'âme et l'esprit de séparer par la parole de Dieu. Mais si nous parlons que intellectuellement, ça va atteindre le cerveau, un point c'est tout. Or l'objectif c'est que ça atteigne le cœur et que ça apporte la transformation. Voilà, donc nous prions pour dire merci au Seigneur de nous accorder l'enseignement de son esprit à travers ce que nous allons lire, parce qu'il est fidèle, il nous a promis que le Saint-Esprit nous enseignera. Si nous sommes petits, si nous sommes humbles, nous écouterons la voix du Saint-Esprit à travers tout ce que nous allons lire. Nous en sommes au Proverbe 28, donc nous allons traiter le Proverbe 28 et le Proverbe 29 aujourd'hui. Nous avons intitulé ça « Des pensées salutaires ». C'est des pensées qui apportent la vie, le salut. Voilà, donc nous commençons par le Proverbe 28.
Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion.
Comment nous pouvons comprendre cette phrase ? Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive, alors que le juste, lui, il a de l'assurance comme un jeune lion. Commençons par le juste. Lorsque nous pensons au jeune lion, parce que parfois quand la Bible donne des images, les gens ne se sentent pas concernés. Oh, c'est très bien d'analyser les images qui sont données pour comprendre le sens de la pensée, le sens de la parole. Il dit le juste est comme a de l'assurance comme un jeune lion. Un jeune lion, c'est un lion qui a encore beaucoup d'énergie, qui a encore de l'audace, qui est fort par lui-même. Et son assurance ne vient pas de la quiétude de la forêt ou de la savane. Dans toutes les savanes, dans toutes les forêts, il y a des animaux qui peuvent nuire à d'autres animaux. Quel que soit l'animal, tu as des gens qui peuvent te nuire, qui peuvent te faire du mal. Maintenant, ça ne veut pas dire que le lion a de l'assurance parce qu'il serait dans un endroit de paix, de tranquillité. Non, c'est la savane, c'est la forêt, il y a des animaux sauvages. Pourquoi le lion, le jeune lion a de l'assurance? Parce que lui-même, il est fort. Son assurance vient de sa force, pas de l'environnement. C'est très important de comprendre ces choses-là. Qui oserait s'attaquer à un lion? Il faut que ce soit un animal spécial. Mais il y a des animaux méchants. Il y a des léopards, il y a des hyènes, il y a des serpents, il y a toutes sortes d'animaux, il y a des crocodiles. Mais tous ces animaux-là ne s'attaquerait pas d'eux-mêmes à un lion. Parce que le lion est fort. Et le lion tire son assurance, non pas du fait que la savane est tranquille, la forêt est tranquille, non, du fait que lui-même est fort. Donc un enfant de Dieu, le juste, ne tire pas son assurance du fait que le monde serait bon, comme certains chrétiens considèrent vivre comme dans un monde de bisounours. Ils ne saisissent pas que nous sommes sur la terre d'épreuves, de difficultés où le diable, d'une certaine manière, règne. Nous sommes sur une terre à problèmes. Et certains chrétiens n'acceptent pas qu'il y ait des problèmes. Et ils tirent leur assurance, leur paix, du fait qu'ils soient en bonne santé, qu'ils aient un bon compte bancaire, qu'ils n'aient pas d'ennemis, et c'est là qu'ils se sentent bien. Non, là, on nous dit que le jeune lion, il se sent bien. Pourquoi il se sent bien? C'est pas parce que la forêt est tranquille, c'est parce que lui est fort. 1 Jean 4,4 nous dit quoi? Bien-aimés, vous les avez vaincus. Petits enfants, vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, l'assurance que nous avons ne vient pas du fait que le monde aurait été neutralisé par qui que ce soit. Ça vient du fait qu'en nous, il y a plus fort que le monde. Le jeune lion est plus fort que presque tous les animaux. Donc, du coup, il est bien, il sait que personne ne va s'attaquer à lui, parce que même si on s'attaque à lui, il va répondre. Et il va gagner, certainement. C'est cela. L'assurance du juste ne doit pas venir du rêve d'un monde tranquille où il n'y aurait pas de problème. Dès qu'on entend guerre, on perd l'assurance. Dès qu'on entend crise économique, on perd de l'assurance. Dès qu'on entend maladie, virus, pandémie, on perd de l'assurance. Non! L'assurance du juste vient du fait que celui qui est en lui est plus fort que tout le reste. Comme le jeune lion, son assurance ne vient pas du fait que la forêt serait sans danger. Non, il y a plein de dangers dans la forêt, mais lui, il est fort. Il saurait les surmonter tous. Parce que c'est le plus fort. Eh bien, c'est ça, c'est comme ça que devrait voir le juste. C'est devrait réfléchir le juste. Celui qui est en lui est plus fort. Donc, que l'on nous parle de crise, que l'on nous parle de virus, que l'on nous parle du nouvel ordre mondial, nous reconnaissons que ce sont des dangers, nous reconnaissons que c'est des complots, mais nous reconnaissons davantage que celui qui est en nous est plus fort que tout cela. C'est pourquoi le juste doit avoir de l'assurance. Maintenant, il nous est dit, par contre, le méchant, lui, même quand il n'est pas poursuivi, eh bien, il fuit. Mais pourquoi? Mais parce que, premièrement, lui-même a tendance à piéger les autres. Il a tendance à chercher à nuire aux autres. Du coup, il pense aussi que les autres vont avoir la même pensée sur lui. Du coup, il se sent poursuivi. Mais le juste, lui ne se préoccupe pas de ce que les autres méditent, complotent. Non, il se dit que celui qui est en lui est plus fort. Mais si ça arrive à sa connaissance qu'il y a un danger, il en prend note, mais il se confie dans Dieu. C'est pourquoi il garde de l'assurance quel que soit le moment. Mais le méchant, lui, premièrement, il est soupçonneux. Il pense que les autres aussi ont un coup bas, ont un truc caché, parce que lui-même a des choses cachées. Donc, il pense que les autres aussi, ils doivent avoir quelque chose. Et donc, il se sent en danger, puisque, comme lui pense parfois mal, il considère que les autres le font aussi, et du coup, lui, il est en danger parce que les autres aussi le cherchent. Et c'est ça, c'est pourquoi il faut cesser le métier de méchant. C'est pas un métier facile. Ça peut avoir des côtés faciles parce que bon, on laisse libre cours à l'expression de la chair, mais il y a un côté paranoïa qui suit le méchant. Et deuxièmement, parce que le méchant n'est jamais sûr de sa protection à 100%. Il n'a pas de foi en Dieu. Donc, du coup, il doit rechercher en lui-même un système qui le protège d'une manière certaine. Donc, il tire sa force quelque part de lui-même, ce qui fait que il ne se sentira bien que lorsque il est loin du danger. Donc, il a tendance à penser qu'il y a un danger et puis à s'en éloigner. C'est ça le comportement du méchant, parce que comme il n'est pas, il ne contrôle pas tout, alors qu'il voudrait tout contrôler, parce qu'il n'a pas foi. Et il veut saisir à 100% qu'il est protégé. Du coup, comme il n'en est pas sûr, parce qu'il n'a pas foi en Dieu, il va toujours avoir tendance à fuir, à aller se cacher. Là, au moins, il peut contrôler en se disant, je suis dans un bunker, telle bombe ne peut pas m'atteindre. Pour arriver jusqu'à moi, il faut traverser 3 ceintures de garde. Voilà, il a tendance à fuir là où il va se sentir le plus en sécurité, sauf que ça se transforme encore en un danger. Il va encore ailleurs parce qu'il soupçonne, il va commencer à soupçonner un de ses gardes du corps. Il va changer et ainsi de suite, il est perpétuellement en fuite. Mais le juste, comptant sur Dieu, il a de l'assurance. Oui, il n'y a pas de question, nous continuons.
Quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux. Mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la science, le règne se prolonge. Un homme pauvre qui opprime les misérables est une pluie violente qui fait manquer le pain. Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant, mais ceux qui observent la loi s'irritent contre lui. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent.
Voilà, parfois dans les discussions, dans les échanges, quand nous voyons des gens soutenir des méchants, bon, il y a une partie d'ignorance qui peut exister, mais souvent, c'est le fait qu'eux-mêmes préfèrent les règles du méchant, les façons de faire du méchant, en se disant que ils seront aussi forts pour jouer de ce genre de rôle, et ils vont soutenir les méchants. Je me rappelle quand nous étions encore des païens et nous regardions certains films, notamment L'homme à la bouique, lorsque un groupe de malfrats ont réussi à faire un casse, le voler dans une banque. Et maintenant, il se cachait quelque part, avec aussi le visage sympathique de Fernandel qui faisait partie des malfrats. Nous souhaitions au fond de nous que le film se termine sans qu'on les arrête. Parce que, au fond de toi, tu te dis, si moi aussi je pouvais faire un coup pareil, aller me réfugier dans une île au Pacifique, tranquille avec de l'argent volé, pourquoi pas? Voilà. Et du coup, quand tu regardes le film, tu as tendance à soutenir celui qui a volé. Et c'est comme ça avec les gens qui ne sont pas amoureux de la loi de Dieu, ils ont tendance parfois à soutenir de mauvaises personnes. C'est comme ça qu'aussi on peut trier autour de nous, parce qu'un juste ne va pas supporter la méchanceté, même si elle est petite, il va dénoncer ça. Mais les gens qui supportent ce que eux ils appellent des petits écarts de méchanceté, c'est que eux-mêmes ils sont enclins à en faire cela, et c'est pourquoi ils se permettent de soutenir des gens qui font la même chose. Nous continuons.
Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Celui qui observe la loi est un fils intelligent. Mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres.
Là, il y a une règle importante, invisible. C'est que les gens qui s'enrichissent malhonnêtement verront leur richesse être transférée vers ceux qui sont juste. Il est vrai que ça ne se voit pas comme ça physiquement, clairement, mais nous devons croire en la parole que ce qu'elle dit, c'est ce qu'il se passe en réalité que nous ne voyons pas, comme nous ne voyons pas nos cellules. Nous ne voyons pas les microbes. Nous ne voyons pas ces choses, mais pourtant, elles sont bien réelles et elles agissent dans le corps humain. Donc nous devons faire confiance à la parole de la même manière. Donc, ces règles spirituelles qui sont émises, eh bien, on a tendance à penser que mais, bon, c'est comme des vœux pieux, c'est comme de l'utopie. Non! Dieu a tout créé. Il a créé des lois spirituelles. Et cette loi-là est une réalité. Les gens qui s'enrichissent malhonnêtement vont vivre un déplacement de leur richesse vers les gens qui sont honnêtes. Mais après, il faut, si quelqu'un veut expérimenter cela, faire un travail avec Dieu pour que Dieu lui montre réellement comment ce transfert-là se fait. Ça ne sera pas notre sujet d'aujourd'hui, mais nous voulons dire qu'il faut faire confiance en Dieu. S'il dit ça, c'est la vérité. Donc il faut toujours s'enrichir honnêtement, pas malhonnêtement. Nous continuons.
Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination.
Et ça, c'est un conseil qui est négligé par beaucoup de personnes qui prient. Qui prient tout en désobéissant à Dieu. C'est écrit que ta prière est une abomination. Ce n'est pas pour rien que souvent les chrétiens, avant de prier, ils confessent leurs péchés. Parce que sinon, quand tu te présentes devant Dieu, alors que tu as une dent contre quelqu'un, alors que tu n'as pas demandé pardon à la personne que tu as offensée, tout ça, et quand ce n'est pas réglé, tu viens devant Dieu prier, c'est une abomination. Ça aurait été mieux de se taire que de prier dans ces conditions-là. Beaucoup négligent cela. Jésus même dit, donc quand tu veux donner ton offrande, regarde bien que en toi, il n'y a pas de problème contre quelqu'un. C'est très important, bien-aimé. Respectons ça parce que beaucoup subissent de malédictions à cause de ça. L'apôtre Paul a dit, à cause de ce genre de comportement où les gens ont des péchés cachés, mais ils prennent la sainte scène, mais il y a des infirmes, il y a des abominations, des malédictions qui frappent les enfants de Dieu. Et parce qu'ils entrent dans un combat spirituel en contradiction. Ils combattent le diable tout en ayant des choses du diable. Jésus dit dans Jean 14, 30, le diable, il vient, mais il n'a rien en moi. Voilà. Donc, tel que Jésus était, il n'y avait rien du diable dedans. Il ne pouvait pas avoir un point où il pouvait utiliser un levier sur Jésus. C'est impossible. C'était impossible. Faisons pareil que notre Seigneur. Faisons en sorte qu'il n'y ait rien du diable en nous lorsque nous voulons prier. Parce que quand nous prions, nous entrons dans le combat spirituel sans nous en rendre compte. Quand tu pries Dieu, tu attires sa présence. Or, la présence de Dieu fait fuir le mal. Et donc, tu entres en combat contre les forces du mal. C'est pourquoi il faut veiller à ce qu'avant de prier, que nous ne traînions pas en nous quelque chose qui serait un péché ou une offense à Dieu. Verset 10.
Celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a creusée. Mais les hommes intègres héritent le bonheur. L'homme riche se croit sage, mais le pauvre qui est intelligent le sonde. Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache.
Voilà. Il est dit là que celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a creusée. Les gens qui égarent les vrais, les justes, parce que parfois il peut y avoir un certain degré d'ignorance chez certains justes, attention, du moment qu'ils ont un cœur juste, Dieu les ramènera toujours à lui d'une manière ou d'une autre. Mais toi qui es la source de leur chute, ta chute sera très très grave. Elle sera visible, tout le monde verra comment tu as chuté. Toi qui voulais égarer les justes. Il en est ainsi de beaucoup de prédicateurs de prospérité beaucoup de faux prédicateurs qui égarent les gens. Mais parmi ces gens-là, les justes parmi ces gens-là finiront par trouver la voie du Seigneur, mais eux auront une chute brutale. De ce nombre, il y a Branham qui a fini par un accident honteux, c'est comme ça qu'il est mort. Il y a d'autres prédicateurs qui sont morts de cirrhose de foie, je ne vais pas citer le nom, d'alcoolique. Ils prenaient ça, ils se cachaient, mais ils étaient en train de répandre des faux enseignements en égarant les justes. Mais c'est juste là. Puisqu'ils ont un cœur juste, Dieu finit par les ramener à lui, mais ces gens-là qui sont la source de leur égarement feront une chute claire et nette et ils en auront honte. C'est ce qui arrive à beaucoup de prédicateurs de prospérité qui finissent par être l'objet de scandales graves, voilà, de sorte que ils tombent dans le piège qu'ils ont creusé pour les autres. Verset 11, il nous dit que l'homme riche se croit sage. Avoir de la richesse, donc de la puissance, donne l'impression d'être intelligent. Mais il y a des gens qui sont à côté, qui n'ont pas ta richesse, mais qui ont la sagesse, qui t'analysent, qui voient comment tu as commencé et comment tu vas finir, parce que ils ont la sagesse pour voir ça. Toi, tu es pris par ta richesse, par ta puissance, tu ne réfléchis plus et ta chute sera aussi remarquable. Nous continuons, verset 13, très très important.
Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde.
Voilà, donc il y a c'est sans commentaire, c'est un verset que nous lisons souvent dans les enseignements de base.
Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Comme un lion rugissant et un ours affamé, ainsi est le méchant qui domine sur un peuple pauvre. Un prince sans intelligence multiplie les actes d'oppression, mais celui qui est ennemi de la cupidité prolonge ses jours. Un homme chargé du sang d'un autre fuit jusqu'à la fosse qu'on ne l'arrête pas. Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut, mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni.
Voilà, celui qui a hâte de s'enrichir, souvent il va suivre des choses vaines comme faire des paris pour s'enrichir vite. Ou bien la bourse, pour s'enrichir vite. Mais il est écrit que vaut mieux cultiver son champ, vaut mieux travailler et s'enrichir d'une manière stable, plutôt que penser devenir riche par des choses simples, faciles, qui paraissent venir de l'intelligence humaine liée à la rapidité, et qui n'ont pas de support réel pour produire la richesse. Attention, soyons des travailleurs, c'est ce que Dieu nous demande d'être. Et nous continuons, l'idée.
Il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes. Et pour un morceau de pain, un homme se livre au péché. Un homme envieux a hâte de s'enrichir, et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse.
Voilà, les flatteurs, au départ, c'est eux qui sont bien. Ils sont bien traités parce qu'ils ont flatté. Et comme monsieur de la Fontaine l'a dit, le flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Donc, quand quelqu'un les écoute, il les privilégie, il leur fait des avantages. Mais le temps montrera que la position du juste était la meilleure. Et il en sera récompensé. Donc le métier de juste demande une certaine patience, une longueur de temps, de la longueur de temps pour pouvoir manger les fruits. Comme un arbre, hein. Quand on sème un arbre, quand on fait l'agriculture, il y a un temps d'ingratitude où nous ne voyons rien, où nous avons beaucoup travaillé, où nous avons perdu, puisque les grains que nous avions comme une richesse, ben nous les avons semés, nous les avons perdus, nous les voyons plus, et ils sont sous la terre, mais il vient un temps où l'arbre sort de la terre en faible plante, puis devient une plante mature qui produit des fruits, et nous sommes dans la joie. Ceux qui sèment avec tristesse moissonneront avec allégresse. C'est ça le métier de juste sur terre, parce que au ciel, c'est nous serons tout le temps dans la joie, tout le temps dans la paix, tout le temps de. Nous verrons directement le fruit de nos œuvres, mais sur terre, il y a un temps. Moi, j'appelle ça le temps de l'arbre, et c'est aussi bien ainsi pour que le juste choisisse la vérité pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle peut donner. Oui.
Question Internet. Par rapport aux prédicateurs de prospérité, les fidèles ne voient pas forcément le mal disant que la richesse n'est pas quelque chose de mal vu certains serviteurs de l'Ancien Testament. Que leur dire?
Il faut leur dire, par exemple, que premièrement, qui sont-ils? S'ils sont des chrétiens, ils sont donc des disciples de Jésus. Donc rien que par le nom qu'ils portent, nous voyons le modèle principal, sinon l'unique qu'ils devraient suivre, c'est Jésus. Donc, ils ne peuvent pas se dire disciples de Jésus et revendiquer les enseignements, revendiquer l'image de quelqu'un d'autre. S'il faut faire du complémentaire avec d'autres, ça sera toujours en relation avec Jésus. C'est curieux que ces gens-là qui sont polygames et qui se disent chrétiens, ou bien qui aiment l'argent, qui aiment la belle vie, ils se disent chrétiens, disciples de Jésus, mais lorsqu'il faut montrer que leur vie est correcte, ils utilisent d'autres personnes. Là, il y a un problème. Donc, dans ce cas, qui s'appelle des salomonistes ou bien de je ne sais pas qui, s'ils s'appellent chrétiens, eh bien, c'est Jésus qu'ils doivent présenter comme modèle qu'eux, ils imitent. Voilà. Deuxièmement, les Écritures sont claires. Ces gens-là n'ont pas cherché la richesse. Dites-moi, où est-ce que Salomon a cherché la richesse? Quand il a commencé à chercher la richesse, c'est là qu'il s'est perdu. Mais quand Dieu lui donne la richesse, c'est parce que lui cherchait Dieu et la sagesse pour gérer le peuple de Dieu, donc pour bien faire le travail que Dieu lui a confié. C'est Dieu qui lui a dit, je te donne la richesse. Ou à quel moment David a cherché la richesse? Non, il n'a pas cherché la richesse, il a cherché à défendre son peuple. C'est Dieu qui l'a cherché, qui l'a mis roi. Est-ce que David voulait être roi? Non, David s'occupait du troupeau sans problème, comme un enfant qui obéit à son papa. C'est là que Dieu vient le chercher pour faire de lui roi. Mais à quel moment David a cherché la richesse? Pas du tout, il était riche par la position que Dieu lui avait conférée de roi, tout simplement. À quel moment Abraham a cherché la richesse? À aucun moment. Voilà, donc c'est Dieu qui a rendu ces gens riches et ils ne l'ont pas cherché. Donc contrairement aux prédications de prospérité qui appellent les chrétiens à rechercher cela, c'est pas la même chose. Voilà, donc c'est au fait, le mensonge est tellement dit pendant des années, on finit par croire qu'il y a quand même une part de vérité dans ce mensonge-là. C'est ça la technique du diable. Quand on répète un mensonge tout le temps, ça finit par être comme une sorte de vérité, même à minima. Mais on se dit, mais ça ne peut pas venir de loin, de rien plutôt, puisque ça fait longtemps qu'on en parle. Voilà, c'est un peu ce que les télévisions font, les États font, le Nouvel Ordre Mondial fait. Ils répètent la même chose à la télé. Covid, 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 Covid. Tu finis par croire qu'il y a une substance réelle dans ce qu'ils disent. Voilà. Et il faut vraiment, dans beaucoup de discussions, prendre le temps d'examiner ce que les gens disent. Quand ils disent, mais oui, mais il y a des serviteurs. Mais... Donc, examinons ces serviteurs-là. Examinons leur vie. Voilà. C'est important parce que souvent, nous suivons comment les gens nous dirigent dans le débat en leur donnant comme une sorte de faveur, considérant qu'ils ont un peu raison, mais nous, on a plus raison. Non, la plupart du temps, ils n'ont aucunement raison, aucun élément, puisque dans l'Ancien Testament, personne n'a cherché la richesse. Même Salomon, c'est lui qui a écrit, qui a dit, « Ne me donne pas beaucoup de richesses. » On a lu ça récemment. Il lui-même, il dit ainsi, « Parce que si j'en ai trop, je risque de te désobéir. » Ça vient de Salomon. Voilà, donc beaucoup de choses que les gens disent. Comme certains disent, « Ah, mais non, mais Joseph était orgueilleux. » Mais où est-ce que c'est écrit que Joseph était orgueilleux? Il n'y a aucun endroit. Souvent, on a entendu beaucoup de choses dans le passé, comme Pierre était léger. Mais je l'ai entendu longuement depuis que je suis chrétien. Vous voyez, malgré le fait qu'il était léger, Dieu lui a donné la responsabilité, c'est faux. Moi, aujourd'hui, je suis convaincu que c'est un homme rempli de foi pour le Seigneur, pour dire la phrase qu'il a dite. Nous n'avons nulle part où aller. Il n'y a que toi qui as les paroles de la vie éternelle. Je trouve que c'est l'une des plus belles phrases qu'un humain ait prononcé à propos de Dieu. Voilà. C'est devant quelqu'un qui te dit « il faut me manger », tu dis « mais je ne te quitte pas, parce que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle ». C'est le haut niveau, mais à force d'avoir entendu que Pierre était léger, Pierre était instable, mais malgré tout, c'est faux. Donc on prend quelques épisodes difficiles de la vie de quelqu'un et on définit la personne par cela. Et comme c'est dit pendant des années, on finit par donner à ça une certaine vérité, non, accorder à cela une certaine réalité, c'est complètement faux. Les serviteurs de l'Ancien Testament n'ont jamais cherché la richesse, jamais. Nous avons plein d'exemples, Élisée, quand il a guéri Naaman, Naaman lui a amené beaucoup de richesses, il a refusé. Et quand Géasi les a prises, eh bien, il est devenu lépreux. Donc, c'est... Voilà. Nous... Oui,
l'Internet complet dit, justement, sur la polygamie, en parlant avec certains chrétiens, il me disait, quel est le verset biblique qui l'interdit? J'avoue que je n'ai pas su y répondre.
Non, mais Genèse 2:24 nous dit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Bon, bien aimé, bon, c'est clair là-dessus. Donc, Genèse 2:24. Jésus dit, quand il parlait de divorce, il dit, au commencement, Moïse vous a autorisé, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Bon, je vois mal, bien aimé, que Dieu rejette le divorce et accepte la polygamie entre nous. Vous voyez, notre Seigneur, il ne répondait pas aux gens selon le fil de leur pensée. Il les mettait devant la vraie réalité. Qu'est-ce qu'on doit faire? Doit-on payer l'impôt à César? Piège. S'il dit oui, mais il n'est pas nationaliste. Comment ces gens-là nous ont colonisés, lui, il soutient cela. Mais s'il dit non, c'est un homme de trouble, il veut faire une révolution sociale. Et tout ça pour empêcher que le véritable évangile soit prêché. Jésus a pris une pièce, il les a mis devant la réalité. Cette pièce a le visage de qui? Ah, mais de César. Eh bien, rendez à César ce qui est à César. Et vous, comme vous avez sur vous l'image de Dieu, rendez ça à Dieu. Rendez-vous à Dieu. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Donc Jésus ne se laissait pas avoir par le fil de raisonnement de l'autre. Il ramenait l'autre à son fil à lui. Ayons cette pensée-là. Lorsque nous sommes en train d'échanger, ne suivons pas le fil de l'autre. Ça va nous amener à la perdition, à la distraction. Ramenons l'autre à notre fil parce que c'est nous qui avons, nous suivons la ligne de la parole de Dieu. Soyons prudents par rapport à tout ça. Mais je pourrais citer d'autres passages, hein, mais je prends Genèse 2:24, mais la prochaine fois, je citerai d'autres passages qui montrent bien que la polygamie n'est pas bonne. Nous continuons.
Verset 24. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit « ce n'est pas un péché » est le compagnon du destructeur. L'orgueilleux excite les querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé.
Amen. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un fou. Il est écrit dans Jérémie 17, « Le cœur est tortueux. » Le cœur est tortueux. Donc du coup, même si tu penses te connaître, tu ne connais pas bien ton cœur. En réalité, c'est pourquoi il faut se confier que dans le Seigneur. Nous entendons dans certaines prédications des gens dire il faut premièrement avoir foi en soi-même et puis foi en Dieu. C'est n'importe quoi, c'est complètement faux. Comment tu peux avoir foi en un homme pécheur que tu es? Non, le cœur, on vient de le lire. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Mais est-ce que vous n'avez jamais entendu ça chez les prédicateurs de prospérité? Il faut commencer par avoir confiance en soi-même. Vous avez certainement déjà entendu ça. Mais ils sont tellement à côté de la parole. C'est écrit clairement ici qu'il ne faut pas faire confiance en soi-même. C'est écrit. Mais quand c'est répété plusieurs fois, ça donne l'impression qu'il y a une once de vérité, il y a un petit pourcentage de vérité. Or, c'est complètement à côté, complètement faux. C'est écrit clairement que « Mais celui qui marche dans la sagesse, sagesse de Dieu, sera sauvé. » Nous continuons.
Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Amen. Mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Et quand ils périssent, les justes se multiplient.
Amen, amen. Les méchants, ils créent la mort quelque part. Les gens se cachent, les gens tremblent, les gens ne sont pas bien. Mais là où il y a les justes, les gens respirent. Et ça favorise la multiplication. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe? Souvent, quand il y a beaucoup de justes, les gens se laissent bercer par la facilité de la présence des justes et diminuent leur combat contre la méchanceté ambiante. Et là, en laissant la méchanceté ambiante fonctionner, l'autre processus commence, les méchants vont se multiplier, les justes vont diminuer, et ainsi de suite. Il faut combattre le mal d'une manière constante, jusqu'au bout. Il ne faut pas laisser la méchanceté ambiante vivre, parce qu'elle finira par nous contaminer. Le mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs, c'est une réalité. Nous passons au psaume 29. Oui, question ?
En fait, tout à l'heure, quand tu as dit, tu as parlé de Pierre, que les gens ont tendance à dire que Pierre était léger. Donc, il y a une internaute qui réagit, qui dit, mais on dit aussi au sujet de Thomas qu'il a fait preuve d'incrédulité, mais n'était-ce pas de l'honnêteté de sa part ou de la prudence?
C'est là que nous venons à la réalité. Toujours, quand on échange, la réalité, c'est quoi? C'est que c'est Jésus qui reproche à Thomas. Ça nous donne l'information que son comportement n'était pas bon. Mais, alors que, quand il s'agit de Pierre, Jésus a dit, Pierre, Satan a décidé de te cribler, de vous cribler, vous tous. Mais toi, quand tu seras revenu, tu fortifieras tes frères. Donc, quand nous analysons la phrase de Jésus, nous comprenons que c'est Pierre qui a été choisi pour faire face au combat de ses frères, de sorte qu'il allait en payer le prix, parce que c'était élevé pour lui, comme lui ne fonctionnait pas encore dans la simplicité à se reposer à Christ, mais ça allait être au-delà de ses forces. Mais cet enseignement-là allait servir pour nous tous. Donc on comprend que c'est le sort réservé au leader. C'est lui qui devait affronter l'affaire, mais il a affronté, il a échoué, parce qu'il ne se confiait pas à 100% au Seigneur. Et donc, nous ne voyons pas Jésus dire, parler comme il a parlé à Thomas. Voilà, donc là, c'est ça ce que j'appelle la réalité. Que dit la Bible par rapport à cette histoire de Thomas? Jésus lui reproche ça. Jésus dit, mais c'est pas bien d'avoir attendu de me voir pour croire. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Voilà, donc Jésus lui a reproché.
Chapitre 29. Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le coup sera brisé subitement et sans remède. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Un homme qui aime la sagesse réjouit son père, mais celui qui fréquente des prostituées dissipe son bien. Un roi affermit le pays par la justice, mais celui qui reçoit des présents le ruine.
Oui, puisque quand les présents sont souvent donnés dans le but d'avoir une part dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi une personne qui a autorité doit être prudent par rapport aux présents. Et surtout, n'est pas en demander. Parce que les présents, dès que tu deviens ministre, tu reçois un coup de fil, par exemple, tu deviens ministre du transport, coup de fil du PDG d'Air France, nous avons des billets gratuits pour le ministre, coup de fil je prends un exemple pour nous ici à Rouen, coup de fil du DG de TCR, bon, nous voulons vous rencontrer parce que nous avons des cadeaux à vous donner, voilà. Tous ces gens-là investissent parce qu'ils savent qu'à un moment donné, ils auront besoin de ta signature au bout d'une demande. Voilà, donc c'est cela. C'est pourquoi un roi qui ne fait pas attention au présent finira par être manipulé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il se passe aujourd'hui avec tous nos présidents européens qui sont des gens qui ont été financés par les Américains, par les George Soros, tout ça. Dès qu'ils arrivent au pouvoir, eh bien, ils font la volonté de ces gens-là. C'est ça la réalité. Oui.
Comment combattre la méchanceté ambiante autour de nous quand notre entourage n'accepte plus la réprimande, entre parenthèses, les collèges de travail par exemple? Doit-on se taire finalement quand nous entendons la méchanceté ou l'impureté s'exprimer?
Non, on ne peut faire que ce qu'on peut. Voilà, comme Jésus a dit à la femme qui avait mis le parfum, cette femme a fait ce qu'elle a pu. Nous ne demandons pas à ce que la société devienne une Bible vivante. C'est des païens. Voilà, ce que nous ne pouvons pas faire, nous laissons ça à Dieu. Dans la prière, nous combattons cela dans la prière. Mais ce que nous pouvons faire, par exemple, ne pas participer à une conversation qui rabaisse quelqu'un au travail. Voilà, ça nous pouvons faire. Mais ce que nous ne pouvons pas faire, donc piloter le païen, nous ne pouvons pas, c'est un païen. Donc ce que nous pouvons faire là, c'est prier. Mais c'est ne pas accepter que le mal fonctionne tranquillement. Il faut le combattre, soit par des actes, soit dans la prière. Jamais accepter que le mal fonctionne tranquillement. Parce que toi, tu es bien, tu laisses le mal travailler autour de toi, non. Il faut le combattre dans la prière ou par des actes. C'est comme ça que nous faisons régresser le mal et nous augmentons le nombre de justes.
Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. Il y a un piège dans le péché de l'homme méchant, mais le juste triomphe et se réjouit. Le juste connaît la cause des pauvres, mais le méchant ne comprend pas la science. Les moqueurs soufflent le feu dans la ville, mais les sages calment la colère.
Voilà, les moqueurs ne font qu'envenimer les choses. Voilà. Les gens qui enveniment les choses, bon, ils vont faire entrer la moquerie, les polémiques pour envenimer. Mais les sages calment la colère. Voilà. Nous devons être sages.
Si un homme sage conteste avec un insensé, il aura beau se fâcher ou rire, la paix n'aura pas lieu. Les hommes de sang haïssent l'homme intègre, mais les hommes droits protègent sa vie. L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. Quand celui qui domine a égard aux paroles mensongères, tous ses serviteurs sont des méchants.
Voilà, donc quand celui qui est dirigeant, responsable, aime les flatteries, les paroles mensongères, voilà, où les gens vont te dire « tu es comme un astre pour nous ». comme les Staline, les dictateurs de l'époque, ils vont s'entourer de gens qui vont leur dire des paroles mensongères. Finalement, ça ne va être que des méchants qui les entourent. Parce que les justes, eux, ils ne peuvent pas mentir. Donc, du coup, ceux qui aiment écouter des flatteries, des gens qui les applaudissent, finiront par s'entourer de méchants. Il reste à savoir, est-ce qu'eux-mêmes ne le sont-ils pas? Voilà, c'est ça. Parce que quand tu aimes ce qui ne fait qu'avantage à toi, donc quelque part tu es orgueilleux et du coup, tu finiras par être entouré que des gens mauvais qui savent jouer ce jeu-là, être hypocrite. Voilà.
Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent. C'est l'Éternel qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. Un roi qui juge fidèlement les pauvres aura son trône affermi pour toujours. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Quand les méchants se multiplient, le péché s'accroît, mais les justes contempleront leur chute. Châtie ton fils et il te donnera du repos, et il procurera des délices à ton âme. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi.
Alors, donc c'est quoi cette révélation? Parce qu'il est écrit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Donc, on peut en déduire, c'est pourquoi je vous ai dit, dans l'interprétation de la Bible, revenez toujours à la réalité. La Bible elle-même donne l'interprétation. C'est ça ce que moi j'appelle réalité. Donc c'est ce que dit la Bible elle-même de la chose qui suscite une discussion. Et là, ce verset a beaucoup été utilisé peut-être aujourd'hui encore, puisqu'on est, nous ne sommes plus dans ces milieux-là, mais beaucoup de pasteurs de prospérité, de faux, l'ont utilisé pour dire que j'ai reçu une révélation, si vous ne m'écoutez pas, vous serez sans frein. Non, ici, la révélation dont il est question, c'est la loi, c'est la parole de Dieu, c'est écrit, heureux s'il observe la loi. Donc quand le peuple est sans révélation, c'est-à-dire sans la parole, il est sans frein, il va faire n'importe quoi parce qu'il ne connaît pas la position de Dieu. Mais quand il a la révélation, la parole, ben, ça lui permet de gérer les choses. Donc, il est heureux, il fait les choses selon la volonté de Dieu et il est béni. Nous avons un exemple très fort que nous avons souvent utilisé lorsque nous avons fait le séminaire sur l'autorité des Écritures. C'est dans 2 Rois au chapitre 22. C'est long à lire, mais c'est l'histoire de la redécouverte, enfin de la découverte des Écritures pendant le nettoyage du temple. Josias, il devient roi, mais un roi qui aime beaucoup Dieu. Il voit que le temple est délaissé, sale, avec des réparations à faire qui ne sont pas faites. Il ordonne qu'il y ait un travail de restauration du temple. Il demande à ce qu'il y ait une collecte qui soit faite pour qu'il y ait suffisamment de moyens financiers pour financer cette restauration du temple. Mais pendant cette restauration, donc du coup, il faut avoir qu'il va y avoir aussi nettoyage en même temps. Pendant le nettoyage, les gens découvrent les Écritures. Et le secrétaire qui a découvert ça, on lui a amené ça par les gens qui ont découvert, quand il lit, il dit, mais c'est pas possible. Donc tout ce que nous faisons là, aujourd'hui, dans ce temple, est faux. Si on doit suivre les Écritures, la parole de Dieu. Il est abattu, il amène ça au souverain sacrificateur, il dit, mais regarde le contenu de ce que des Écritures. C'est en contradiction avec tout ce que vous nous faites faire. Le souverain sacrificateur amène ça au roi pour dire, ben voilà ce que nous avons découvert. Ils ont découvert les Écritures. Le roi aussi, quand on lui fait lire, il fait lire ça, il déchire ses vêtements. Il dit donc, depuis tout ce temps-là, nous sommes sans frein. Nous nous comportons, nous faisons des cultes, nous faisons des sacrifices, mais en dehors de la volonté de Dieu. Nous avons des comportements qui ne sont en dehors. Donc, mais malheur à nous, nous allons faire quoi? C'est là que la prophétesse Hulda, quand elle apprend ça, elle prophétise que, puisque Josias a eu à cœur Dieu comme ça dans la vérité, lui sera préservé, mais son peuple subira le jugement qui est décrit dans le livre, donc dans les Écritures. Donc vous voyez, c'est un exemple d'être sans frein quand nous n'avons pas la révélation. Cette révélation, ce n'est pas ce qu'on dit à un pasteur. C'est les Écritures, c'est la parole de Dieu. Et beaucoup ont utilisé ça pour manipuler les enfants de Dieu en disant, il faut m'écouter, la révélation que j'ai, si vous n'écoutez pas, vous êtes sans frein. Non, il s'agit des Écritures, de la parole de Dieu. Bien sûr, les prédications, c'est ça aussi, c'est les, mais c'est un rappel des Écritures. Ce n'est pas une révélation extra-biblique qui va sauver les gens ou je ne sais quoi. Donc, il faut revenir toujours à la réalité quand vous interprétez la Bible. La Bible contient l'explication. Cette révélation-là, ce sont les Écritures. Oui, question.
Comment peut-on mettre en pratique les versets 15 et 17 quand les lois assorties de sanctions comme retirer les enfants de leur famille sont prises pour priver des parents de l'autorité parentale?
Il faudrait commencer d'abord par pratiquer tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si nous pratiquons ces deux commandements-là, il y aura une atmosphère d'amour, de lien fort entre nous et les enfants, de sorte que même si nous pratiquions ce passage-là, il n'y aura pas de conséquences néfastes. Un enfant qui sait qu'on l'aime ne va jamais aller à la police accuser ses parents, quoi. Jamais. Un enfant qui a grandi dans l'amour de ses parents, là où il y a ce lien-là réel, il les aime, il ne va jamais les dénoncer ou pour dire qu'ils m'ont tapé, ils m'ont fait ceci, cela. Non. Donc c'est pourquoi, commençons par le commencement, pratiquons l'amour, faisons le bien, soyons exemplaires, vous verrez que personne n'ira, aucun des enfants n'ira un jour dire ben, « mon papa m'a fait ceci, mon papa m'a fait ça ». Ils peuvent se plaindre auprès de frères et sœurs, auprès des oncles, voilà, pour parfois tirer un avantage en tant qu'être humain, mais jamais exposer les parents à un vrai danger, parce qu'ils aiment ces parents-là. C'est cela. Alors, faisons en sorte qu'il y ait l'amour véritable.
Ce n'est pas par des paroles qu'on châtie un esclave. Même s'il comprend, il n'obéit pas. Si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui.
Voilà. Comme nous avions dit encore, revenons toujours à la réalité. Cette parole qu'on vient de lire donne l'impression que il est encouragé de taper l'esclave, pas de lui parler. Mais lorsque nous lisons bien le verset qui suit, si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Donc, quand nous lions le verset qui suit au verset 19, nous comprenons que les esclaves étant habitués à être esclaves, donc à obéir à des ordres, ont naturellement tendance à faire des mauvaises choses lorsqu'ils ne sont pas observés. Et du coup, c'est un cercle vicieux qui fait que, ben, en ayant ce comportement, ils obligent les maîtres à être tout le temps sous surveillance visible. Du coup, les paroles ne suffisent plus, mais il faut un suivi physique visible. C'est ça la réalité. C'est que nous le voyons même avec les enfants, ou même avec nous-mêmes face à Dieu. Ben, nous avons tendance, c'est parce que quelque part nous savons que Dieu voit tout, mais nous l'oublions très vite que Dieu voit tout. Nous avons tendance, quand nous ne sommes pas observés, à faire quelque chose qui n'est pas bien. Et c'est ce qui fait que ben, ça réclame un suivi physique, une obligation physique pour faire obéir les humains. Mais ce n'est pas un encouragement à la violence. C'est un état des choses. C'est que certains sont malhonnêtes dans leur cœur, ils n'écoutent pas, et du coup, il faut un suivi physique pour leur faire obéir. Voilà. Pour les faire obéir.
Le serviteur qu'on traite mollement dès l'enfance finit par se croire un fils.
Voilà, donc les gens finissent toujours par abuser. Mais ce n'est pas un appel à ne pas être dans l'amour. Mais nous sommes prévenus que beaucoup de personnes qui sont bénéficiaires des facilités d'un responsable, d'un parent ou d'un directeur, d'une autorité, finissent par croire qu'ils sont plus qu'ils ne le sont. Et finissent par, comme on dit, on leur donne la main, ils finissent par prendre le bras. Ce sont des réalités, mais ça ne doit pas nous conduire à changer d'attitude envers les gens. Donc, soyons toujours dans l'amour, soyons toujours dans la bonté. S'ils abusent, c'est leur propre faute, mais nous, on ne doit pas devenir mauvais puisque les gens... nous ne devons pas devenir mauvais puisque les gens le sont envers nous, les gens sont ingrats. Non, nous devons rester bons. Voilà. Nous continuons.
Un homme colérique excite des querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Il entend la malédiction et il ne déclare rien. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Amen. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun.
Amen, amen.
L'homme inique est en abomination au juste, et celui dont la voie est droite est en abomination au méchant.
Amen. Les gens cherchent la faveur de celui qui domine au lieu de chercher à être agréable à Dieu. Vous savez, vous ne vous laissez pas entourer par des gens qui cherchent votre faveur. Laissez-vous entourer par des gens qui cherchent Dieu. Parce que les gens qui cherchent Dieu vous seront toujours favorables. Parce que Dieu leur dira obéissez à cette personne-là. Mais si vous cherchez, vous vous entourez des gens qui cherchent votre faveur, le jour où, sans que vous ayez même tort, mais vous allez les redresser un peu, vous allez les priver d'une chose ou d'une autre, tout va s'écrouler là. Vaut mieux être entouré des gens qui ont pour vœu l'obéissance à Dieu, servir Dieu. Ces gens-là, puisqu'ils veulent servir Dieu, si toi aussi le responsable, tu es de Dieu, Dieu leur rappellera toujours, attention, vous devez suivre, vous devez obéir. C'est moi qui suis en train d'utiliser la personne, c'est moi qui travaille à travers. Vous devez, si c'est moi que vous voulez, eh bien, vous devez accepter aussi cette personne-là. Ainsi de suite. C'est très important d'avoir des gens qui cherchent Dieu. Parce que, si toi-même tu es avec Dieu, hein, plutôt que des gens qui cherchent ta faveur. Oui, vous clôturez.
Oui, pasteur, je reviens au verset 20 qui dit « Si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. » Et ben, je voulais savoir c'était quoi la différence entre l'homme irréfléchi dans ses paroles et l'insensé. En fait, j'ai l'impression que c'est les mêmes.
Voilà, non. Insensé, c'est quelqu'un qui est officiellement en quelque sorte insensé. Voilà, il est léger. Il est dans le désordre, il est dans la contradiction, tout le temps, c'est sa vie. Alors que certains hommes peuvent paraître logiques, ils ont reçu une certaine connaissance, mais un exemple simple, quand vous voyez un homme qui a bac plus 15 émettre, par exemple, un médecin à la télé, émettre un raisonnement qu'un étudiant même ne peut pas sortir. Vous devez vous dire, là, il y a un problème. C'est-à-dire que ce monsieur est censé, c'est lui qui connaît le plus pour nous apporter l'éclairage, pour nous apporter la bonne voie sur cette question-là. Mais il parle moins bien qu'un étudiant de médecine. Donc, c'est forcément que son cas est grave dans le sens où il y a un piège fort. Donc, son cas est plus grave que le cas d'un insensé qui ne connaît rien, qui dit n'importe quoi. Voilà. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Donc, quand un homme censé être logique, sage, intelligent, dit n'importe quoi, c'est plus grave que si ça vient d'un insensé. Parce que non seulement les dégâts sont plus importants, mais ça voudrait dire qu'il y a un vrai problème là. Un problème plus grave que celui d'être insensé. Souvent, il y a un problème de complot, de malhonnêteté, de méchanceté grave. Voilà, nous allons prier et nous avons vu ça pendant le Covid, des raisonnements absurdes venant des intellectuels. Vous voyez par exemple le monsieur qui vient de gagner, d'avoir un prix Nobel de physique, tout de suite il s'en prend à Didier Raoult. Oh, mais au lieu de parler de la physique, lui il parle de la science et il s'en prend à Didier Raoult indirectement. Qu'est-ce que... Quand tu suis ça, tu te dis, mais ça, c'est comme un enfant. Pourtant, il vient d'être crédité d'un prix Nobel. Donc, conclusion, ce sont des prix Nobel arrangés parce qu'on veut l'utiliser pour attaquer Raoult, c'est tout. Parce que tu passes de la physique à la médecine. Bien-aimé, moi, j'ai fait la physique, j'ai fait les maths, je connais la médecine. Ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas vouloir que le raisonnement qu'on a en mathématiques, même physique et mathématiques, je vous dis, ça n'a rien à voir. La physique, elle est, c'est une science empirique, elle est expérimentale. Au fait, en physique, les choses sont vraies jusqu'à ce qu'on prouve le contraire. Ce n'est pas comme en maths, où les choses sont vraies d'une manière stable. Tout ce qu'on trouvait, les Cauchy, les Lagrange en mathématiques, tout, aujourd'hui, c'est encore vrai. Mais les choses que Newton avait dites vraies à un moment donné, en physique, aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Même Einstein, les choses qu'il a dites vraies, aujourd'hui, certaines ne sont plus considérées comme vraies. Donc, quand tu veux parler de la science comme si elle était uniforme, comme les mathématiques partout, c'est faux. La médecine n'est pas... On peut même aller très loin pour dire que la médecine n'est pas une science. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on essaye comme ça. C'est quelque chose d'empirique. C'est comme une forme de cuisine. Maintenant, tu te dis, mais c'est cette personne-là qui est censée connaître ça plus que moi. Parce qu'elle est à un niveau très élevé. Maintenant, quand elle dit n'importe quoi, tu dis, ah non, là, il y a un truc caché. Ce n'est pas qu'il est insensé, mais il y a une orientation, il y a un complot, il y a quelque chose qui est fait derrière cela. Voilà. Nous allons prier que Dieu nous donne la sagesse de pratiquer tout ce que nous lisons. Beaucoup de gens disent, ah, les proverbes, c'est intéressant, c'est très bien. Mais ce qui est intéressant pour Dieu, c'est la pratique. Que Dieu nous aide, prions. Seigneur, nous voulons prier que tu nous aides à pratiquer toute cette sagesse salutaire que tu as confiée à notre bien-aimé Salomon. Que ce ne soit pas vain, ces études bibliques. Que cela nous apporte une véritable transformation dans notre vie quotidienne. Savoir être sage, pardonner, chercher à construire et non pas à détruire. Ne pas allumer le feu là où il y a déjà un petit feu, mais être quelqu'un qui calme les choses. Ne pas soutenir les gens qui ont de mauvaises intentions ou bien des gens qui sont méchants, mais soutenir la vérité, Seigneur. Que tous ces conseils, nous les pratiquions, Seigneur, avec détermination. Merci pour ta bonté, ta fidélité. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Au nom de Jésus, amen. Voilà, en annonce, nous avons vendredi une émission sur le suicide assisté. Donc vendredi à 16h, émission ayant comme titre, donc question et réflexion sur le suicide assisté. Que Dieu nous bénisse.